Cet été, Ève Roger accompagne vos week-ends sur Europe 1.
Ce matin, Ève Roger, vous recevez Aurélien Pradier, député du Lot et numéro 3 des Républicains.
Bonjour Aurélien Pradier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin.
Avec
Alors,
plaisir.
Avant de vous parler de l'omniprésence sur le terrain du Premier ministre Jean Castex, parce que c'est bien l'actualité d'aujourd'hui, je voulais avant revenir avec vous sur la loi bioéthique votée à l'Assemblée hier. Vous vous êtes abstenu sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Alors, vous n'êtes pas comme tous les autres républicains, en tout cas beaucoup de votre camp, qui sont vent debout contre cette réforme.
Je me suis abstenu dès la première lecture de ce texte. Vous savez qu'il contient beaucoup plus que la question de la PMA et
bien
notamment
sûr.
D'autres dispositions auxquelles j'étais favorable. Il y avait des lignes rouges que je n'imaginais pas franchir. Je pense à la PMA post-mortem notamment, qui a été retirée du texte contre l'avis d'une bonne partie des députés de la majorité. Vous savez, c'est un sujet sur lequel j'ai un doute. Et donc je sais qu'en politique, c'est pas toujours simple de concéder un doute, mais il se trouve que moi j'en ai un, que je ne souhaite pas m'opposer brutalement à ce texte-là, parce que je sais à quel point il peut diviser la société, que j'avais des lignes encore de questionnement, et donc comme il m'arrive, moi comme parlementaire, comme chacun des citoyens, cela peut leur arriver aussi, de douter, eh bien je me suis abstenu. On peut penser que c'est pas courageux, mais ça veut dire quelque chose de particulier sur un sujet qui est profondément éthique, qui touche à des convictions intimes et personnelles, et sur ce sujet, je n'ai pas encore tranché.
Mais votre doute, il porte vraiment sur l'ouverture de cette PMA à toutes les femmes?
Oui, parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Je parle de ils en parlant des responsables politiques qui portent ce texte-là. Je crains l'arrivée de la GPA, j'y suis farouchement opposé, c'est une limite que je ne franchirai jamais. Et donc j'ai ce questionnement-là, et je sais à quel point un vote d'opposition peut blesser aussi une partie de la société. Vous savez, le vote d'un parlementaire, c'est aussi un vote symbolique, et je n'ai pas envie de blesser une partie de la société sur des sujets comme cela. Je le redis, ça peut paraître comme étant de la lâcheté, mais il y a des sujets profonds sur lesquels on a encore le droit de douter. Il se trouve que c'est mon cas.
Et justement, vous vous êtes fait connaître aussi grâce à un autre sujet de société, pas forcément le cœur de cible des Républicains, c'est les violences faites aux femmes. Votre proposition de loi a même été votée à la quasi-unanimité en décembre dernier. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il en reste alors que 3 femmes encore ont été tuées par leur conjoint ou ex depuis mardi dernier.
C'est un combat majeur, moi j'étais fier de le porter à l'Assemblée nationale. Moi je me suis engagé à droite, chez les Républicains, parce que je crois que la droite est là pour porter des messages justes, des causes justes. Et la question des violences conjugales est une cause juste qui appartient aussi à la droite républicaine depuis de nombreuses années, et notamment depuis Simone Veil. Je vais, dès la rentrée de septembre, saisir à nouveau le garde des Sceaux sur 2 applications de cette loi-là, notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Le garde des Sceaux a indiqué qu'il allait généraliser le bracelet. J'indique
c'était
juste
prévu
que
dans la loi, oui, c'est ça.
Bien sûr, elle est en application depuis le 1er janvier. Et depuis le 1er janvier, pour vous parler très franchement, notre pays n'a pas été foutu de mettre en place les bracelets anti-rapprochement. Je n'imagine pas qu'une grande nation comme la nôtre ait besoin de plusieurs mois pour appliquer des dispositions aussi essentielles de protection des femmes. L'écart entre les paroles et les actes sur ce sujet est un écart abyssal. J'ai des doutes sur la volonté d'engagement du garde des Sceaux. Quand je dis des doutes, c'est autant positif que négatif. Je l'ai déjà interpellé, je continuerai à le faire à la rentrée.
En même temps, il y a eu le confinement.
Pour m'assurer que ça avance.
On peut comprendre que le confinement a empêché la mise en place du dispositif.
Non, je ne peux pas le comprendre. Pardon, mais dans un grand pays comme le nôtre, la loi a été votée le 1er janvier, elle a été débattue en octobre de l'année dernière. Dans un grand pays comme le nôtre, nos administrations doivent être capables de travailler, y compris durant le confinement. Enfin, c'est une question de priorité politique. D'autres pays d'Europe le font déjà, je pense à l'Espagne. Nous n'avons pas besoin d'inventer les bracelets, ils existent ailleurs, c'est assez simple à mettre en place. Tout ça, c'est une question de volonté politique sur un sujet qui est juste essentiel, la vie des femmes. Et donc sur un sujet comme celui-ci, on ne peut pas se chercher des excuses de retard de calendrier, il faut juste passer aux actes urgemment.
Mais pour rester sur ce sujet, Aurélien Pradier, le président des Jeunes Républicains, Oran Réhagnan, est accusé par 2 jeunes femmes de tentatives d'agression sexuelle en 2017 et 2018, donc quelqu'un de votre camp. Vous lui avez même demandé, en tant que secrétaire général des Républicains, de se mettre en retrait de ses responsabilités, mais lui, il l'a refusé. Alors comment vous réagissez à sa réaction, justement ?
J'attends cette semaine. J'attends que Oran Réhagnan fasse preuve de responsabilité. Je pense qu'il en est capable. Vous savez, moi, je suis cohérent dans mes engagements. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas me demander de fermer les yeux. Je crois profondément à la présomption d'innocence, et parce que je suis un démocrate et un républicain, je la défendrai toujours. Mais je pense aussi que pour mieux se défendre, il faut être en retrait de la scène médiatique. Sinon, c'est la scène médiatique qui vous juge. Voilà pourquoi j'ai fait cette proposition que Oran Réhagnan, notamment pour la rentrée politique de septembre que nous aurons à Port-Marly, nous allons rassembler 000 jeunes puissent se mettre en retrait. Et je pense que son sens des responsabilités le poussera à cette décision.
Enfin, il dit qu'il peut à la fois se défendre et continuer à diriger les jeunes républicains.
Eh bien écoutez, on a le droit de réfléchir lorsqu'on est responsable politique, lorsqu'on est un jeune responsable politique. Je pense que dans la semaine, il prendra une position qui permettra à chacun d'être serein et à lui-même de prendre du temps pour se défendre, essentiellement pour se défendre, parce que c'est essentiel pour lui, plutôt que d'avoir des engagements politiques qui, à mon sens aujourd'hui, le placent sur une scène médiatique qui n'a pas lieu d'être.
Mais vous savez, vous dites dans la semaine, ça veut dire que vous lui avez posé un ultimatum ?
Non, je ne pose d'ultimatum à personne parce que je respecte les femmes et les hommes qui s'engagent en politique. Moi, je prends des positions. Je ne suis pas quelqu'un de lâche ou d'incohérent. Et donc, quand j'ai une position, je la défends. J'ai dit qu'il valait mieux se mettre en retrait de la scène médiatique. Mmh. Je pense qu'il va prendre un peu de temps pour y réfléchir. C'est une situation douloureuse aussi pour lui et chacun peut le comprendre, d'être mis en accusation. Et donc, quelques jours permettront sûrement cette réflexion-là.
Bon, donc, vous, sur le même sujet, vous avez dit cette semaine aussi, Aurélien Pradier, que la position de Gérald Darmanin, dont l'enquête pour viol a été rouverte, n'est pas tenable. Lui non plus, lui aussi, ne refuse de jeter l'éponge. Il est toujours ministre de l'Intérieur, chahuté, effectivement, mais toujours là. Est-ce que ça vous choque ?
Moi, ce qui me choque, c'est que nous n'arrivions pas aujourd'hui à garder un minimum d'honneur politique. Évidemment que Gérald Darmanin est présumé innocent. Il faut le dire et le clamer, parce que la présomption d'innocence, elle est essentielle pour tout le monde, pour le plus puissant comme pour le plus modeste de nos concitoyens. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il n'est pas ministre de n'importe quoi. Il n'est pas ministre au chou farci, il est ministre de l'Intérieur. Et donc, les sujets qu'il va avoir à traiter concernent y compris les procédures qui sont les siennes. Voilà pourquoi je crois, dans une situation comme celui-ci, que moralement, éthiquement, ce n'est pas tenable.
Mais c'est une erreur politique de l'avoir nommé là, selon vous ?
C'est au président de la République de le dire. Je ne demanderai pas à Gérald Darmanin de démissionner. Ouais. Moi, je crois en la responsabilité des hommes et des femmes politiques. Je me suis engagé très jeune parce que je pensais que la politique avait un code d'honneur. Et donc, c'est à eux de prendre ces décisions-là. Quant à la décision du président de la République, elle lui appartient. C'est pas la première qui est incohérente sur ces sujets. C'est de voir Marlène Schiappa aujourd'hui aux côtés de Gérald Darmanin, alors qu'hier, ouais, elle avait des mots on ne peut plus durs face à celles et ceux qui étaient sujet aux violences faites aux femmes, c'est pas une incohérence, ce n'est qu'une incohérence de plus.
Alors justement, on arrive au gouvernement, Jean Castex qui fait la une du JDD aujourd'hui, omniprésent sur le terrain, mais omniprésent sur vos terrains, vous les Républicains, hein, il parle de sécurité, de territoire, de social, d'autorité. Est-ce que le Premier ministre, ex-membre des Républicains, n'est pas en train de siphonner le corpus idéologique de votre camp ?
Moi, je ne crois pas que la vie politique se résume à un siphonnage de tel ou tel camp. Mmh. C'est pas parce que vous prononcez des mots magiques que vous allez convaincre les Français. Les Français sont pas des imbéciles. C'est pas parce que vous leur prononcez le mot de sécurité, le mot d'ensauvagement, que mécaniquement vous allez capter tel ou tel électorat.
Enfin, il y a 56% d'opinion positive aujourd'hui, hein, ce qui est plus encore que Édouard Philippe qui est parti.
Oui, mais le problème, c'est pas Jean Castex. Le problème, c'est celui qui pilote Jean Castex. C'est Emmanuel Macron. Est-ce que les Français ont confiance en Emmanuel Macron ? La vérité, c'est non. Est-ce que les Français aujourd'hui pensent qu'Emmanuel Macron fait tout ce qu'il peut faire, notamment sur les questions de sécurité ? La réponse, c'est non. Et l'agitation de Jean Castex, elle ne masquera jamais l'insincérité, la comédie d'Emmanuel Macron. Ce gouvernement est un gouvernement de comédiens. Et donc, ils vont continuellement s'agiter, faire semblant, sauf que les actes ne sont pas au rendez-vous. Vous savez, depuis 3 ans, il y a eu une augmentation de plus de 21% des violences faites aux uns et aux autres, et notamment aux forces de l'ordre. C'est ce bilan depuis 3 ans, une explosion. Comment voulez-vous qu'en l'espace de quelques centaines de jours, ils puissent transformer ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis 3 ans ?
C'est peut-être un peu difficile de juger en justement 4 semaines seulement le gouvernement.
Mais sauf qu'Emmanuel Macron n'est pas là depuis 4 semaines, madame. Il est là depuis plus de 3 années. Et je le redis, la question, ce n'est pas Édouard Philippe ou Jean Castex. La question, c'est Emmanuel Macron. Ces premiers ministres ne sont que les exécutants de la politique d'Emmanuel Macron. Et pour ma part, je ne partage pas la vision de la société, l'idée que Emmanuel Macron se fait de notre pays. Voilà pourquoi je suis dans l'opposition. Pas par réflexe bête et méchant, mais simplement parce que ce n'est pas ma vision de la société et que je sais à quel point la position d'Emmanuel Macron est une position de comédien, et je ne supporte plus cette comédie permanente.
Alors justement, est-ce que c'est pas le moment pour qu'un candidat LR à la présidentielle de 2022 sorte des rangs pour occuper ce terrain, justement ? Vous soutenez une éventuelle candidature de François Baroin, est-ce que vous souhaiteriez qu'il se déclare vite ?
Je pense qu'il faut que la rentrée de septembre, d'octobre, soit le moment pour les uns et les autres d'exprimer leurs intentions. Moi, je dis l'estime profonde que j'ai pour François Baroin parce que je sais son sens de l'État, je sais sa sérénité et sa capacité à réconcilier les Français, mais c'est une décision qui lui appartient. Vous savez, on a une grande maladie dans ce pays, nous les politiques et puis vous les journalistes aussi, c'est qu'on est obsédés par l'élection présidentielle. Et il se trouve qu'il y a encore des femmes et des hommes qui sont mentalement équilibrés, François Baroin en fait partie, et qui ne sont pas obsédés par cette question-là.
Mais justement, sur cette obsession, moi je suis frappée, j'ai l'impression que l'obsession présidentielle est la condition sine qua non pour gagner l'élection présidentielle en France.
Oui, c'est d'ailleurs une problématique, mais moi je pense que les temps ont changé. L'analyse que je fais est que nous sommes en train de finir une période de narcissisme exacerbé. Je crois qu'Emmanuel Macron a contribué à cela. Et je crois qu'on est à un moment où les Français n'attendent plus du candidat à la présidentielle qu'ils disent matin, midi et soir qu'ils se rêvent président de la République, mais ils attendent du candidat à la présidentielle qu'il dise ce qu'il veut faire du pays. Je pense qu'on va tourner une page, peut-être provisoirement, mais qu'on va tourner une page qui est celle du narcissisme présidentiel, parce qu'Emmanuel Macron a rendu ce narcissisme tout à fait insupportable. Et c'est pour ça que je crois que des candidats à droite qui se déclareront sereinement, sans agitation, sans précipitation, sauront convaincre les Français.
D'un mot, dites-moi, est-ce que Nicolas Sarkozy pourrait être l'homme providentiel pour vous ?
Non, il l'a dit lui-même, il ne veut plus être candidat à l'élection présidentielle. Il a été un grand chef d'État, il a beaucoup de conseils à nous apporter, y compris ceux qui n'apprécient pas Nicolas Sarkozy peuvent respecter son engagement pour la France. Et je sais qu'il servira non seulement son pays, mais aussi sa famille politique le moment venu.
Merci, merci Aurélien Pradier. Je rappelle, vous êtes secrétaire général des Républicains, vous avez été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Et c'est